Amen. C'est bon de revenir à la croix. C'est bon de chanter la croix. C'est bon de ne pas oublier la croix. Parce que dans cet infâme bois se trouve la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vraiment, cette bonne nouvelle qui est l'Évangile en Jésus. Ce matin, les ados, finalement, vous restez avec nous. Vous êtes là avec nous ce matin et on salue les gens qui sont sur YouTube, qui sont sur Facebook ce matin. Privilège d'être ensemble, de louer le Seigneur. Je ne sais pas si en ligne vous entendiez les voix qui se faisaient aller ici, mais ça chantait fort, ça chantait parce qu'on est reconnaissant d'appartenir à Jésus. Hein, ça, on faut pas oublier ça, c'est tellement génial. Notre nom de famille, c'est le sien. On appartient, nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse plonger dans la grâce de Dieu, un peu comme on plonge dans les bras d'un Père qui nous aime. Il y a dans mon cœur, depuis quelque temps, une phrase qui fait partie de l'Écriture, on va le voir ensemble, qui va dire que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, dans Hébreux 12. Il y a quelque part la question qui est soulevée immédiatement quand on pense à ce passage-là, c'est « Ok, je peux me priver de la grâce de Dieu? Ok, c'est possible. Est-ce qu'il se pourrait que je me prive moi-même de cette grâce de Dieu-là? Est-ce que c'est possible que vous vous priviez de cette grâce de Dieu-là? » Et à quelque part, c'est important juste de mettre les choses au clair. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui varie selon les saisons. La grâce de Dieu, elle est constante. La grâce de Dieu, elle est extraordinaire. Elle ne faillit jamais. Mais il semblerait que nous pouvions nous priver de cette grâce-là. Intéressant, n'est-ce pas? Nous pouvons échouer à dépendre de cette grâce extraordinaire-là de Dieu. Et j'aimerais, et les chants nous y ont amené ce matin, j'aimerais vous partager un peu qu'est-ce que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est de recevoir une bénédiction, un cadeau, une grâce, quelque chose qu'on ne méritait pas. Et là, immédiatement, on se dit, OK, qu'est-ce que je mérite pas? Là, si vous réfléchissez un petit peu plus longtemps, vous allez dire, ouais, pas grand-chose que je mérite. Ah, OK, bon, c'est bon, on est dans la même catégorie, c'est bien. Mais lorsqu'on parle d'un cadeau de Dieu qu'on ne mérite pas, souvent, on va penser à la croix. Hein, la croix, évidemment, qu'on ne méritait pas. On ne méritait pas que Jésus vienne sur la terre. D'ailleurs, il n'y a personne qui a mérité quoi que ce soit pour que Jésus descende. Il n'y avait pas de piété tellement grande que Jésus disait, « Je n'ai pas le choix de descendre sur terre. » Non. Il l'a fait et il a été jusqu'au bout. Vous vous rappelez quand le gars qui est en charge de tout ça, les deux crucifiés, ou deux futurs crucifiés, puis il va en libérer un, qu'est-ce que la foule dit? Crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Et même à ce moment-là, croyez-moi, cette gang-là ne le méritait pas. Il ne méritait pas pantoute. D'ailleurs, nous non plus. Alors, on pense à la gloire éternelle, on pense à notre futur en Jésus. Tout ce que nous recevons n'est que grâce. Mais il y a également dans l'autre sens aussi, parce que ça, c'est la grâce de Dieu, c'est une faveur, un cadeau qu'on ne mérite pas, mais on peut aussi dire que Dieu ne nous punit pas comme nous le méritions. Et ça aussi, c'est une grâce. Dieu a choisi de ne pas nous punir à la hauteur de ce que nous méritions. Et on pense à la punition que devaient recevoir nos fautes, nos péchés, même les conséquences que parfois Dieu nous épargne, encore aujourd'hui sans que nous le méritions. Certains vont parler de ça comme l'idée que Dieu ne nous punit pas même si on le mérite, comme la miséricorde. Ils vont parler de ce qu'on reçoit de beau qu'on ne mérite pas comme étant la grâce. Je considère que toutes ces choses-là, c'est la grâce de Dieu. Ne pas nous punir ou donner une grâce que nous ne méritons pas. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que quelqu'un pourrait ne pas vouloir... Comment quelqu'un pourrait vouloir se priver de cette grâce-là extraordinaire? Comment quelqu'un pourrait vouloir se priver d'avoir une bénédiction qu'il ne mérite pas ou d'éviter une punition qu'il méritait? Vous êtes avec moi? Vous suivez un petit peu? Je suis pas trop mêlé ce matin. Ça va? Comment est-ce qu'on pourrait se priver d'une telle grâce? Et on va lire le reste du passage dans Hébreux 12, versets 14 à 16, qui va dire la chose suivante. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. » Intéressant, n'est-ce pas? Comment se priver de la grâce de Dieu? Bien, on voit là-dedans qu'on peut la mépriser. On peut mépriser cette grâce comme étant quelque chose de banal. Comme Ésaü, qui a considéré son droit d'aînesse comme quelque chose qui avait peu de valeur. On peut voir aussi que, à travers ce passage-là, on voit qu'on peut se priver de cette grâce de Dieu quand on laisse le péché nous submerger, quand on laisse le péché prendre toute la place, quand les racines deviennent plus grosses que des racines. Mais on peut aussi se priver de cette grâce-là si on décide de gérer notre péché, gérer notre vie seule sans Dieu. Se priver de la grâce de Dieu. Et je résumerai peut-être, ou j'illustrerai la chose, que de se priver de la grâce de Dieu consiste à laisser une petite racine devenir un arbre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner une petite image. Chez nous, lorsqu'on a acheté notre maison, il y a de ça plus de 10 ans, il y avait une haie qui était sur le bord de la rue. Et cette haie-là c'était pas un cèdre, c'était une autre, c'était plus feuillu, c'était pas un cèdre, OK? C'était une autre haie, puis là, nous autres, on se disait, hey, on est jeunes et fringants, on va y faire la job. On la veut pas, cette haie-là. Alors, moi et Cindy, ne reculant devant rien, vraiment, avec un mindset de guerrier, on sort notre pelle, notre pioche, notre pic, tout ce que vous voulez, et puis là, on se dit, pelle, pioche, chest-bras, dos, chest-bras, on y va. OK? Ça va? Et que dire du résultat? C'était extraordinaire. J'en parle à la fin de la réunion. OK? Bon. Vous allez voir tantôt. Mais l'idée, ce que je veux dire ici, c'est que il y a parfois, on va parler de la grâce de Dieu ce matin qui est dynamique et qui nous mène à la sanctification. À la sanctification, c'est quoi ça? La sanctification, c'est d'enlever les racines d'amertume, c'est d'enlever les racines de péché, c'est d'enlever les racines de conflits les uns avec les autres pour éviter que ça fasse des bébés qui prennent toute la place dans nos vies. La sanctification, c'est de ne pas mépriser ces petits gestes-là, c'est de ne pas mépriser ces pensées-là, ces habitudes qui vont finir par devenir des pensées envahissantes, des patterns avant qu'elles deviennent des fardeaux extraordinaires dans le mauvais sens, des fardeaux qui sont tellement grands qui pèsent sur nos vies. La sanctification, c'est d'éviter de mépriser ces petites actions-là qui nous mènent plus loin. Le péché, vous savez quoi? Le péché dans nos vies ne quitte jamais avec le temps. Le péché ne quitte pas avec le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est comme une racine. Et tant qu'on n'a pas arraché la racine, vous savez quoi? Notre cœur et notre nature charnelle fait en sorte que c'est un terreau fertile pour qu'elle grandisse, cette racine-là. C'est plate, là, mais des fois, on se dit, ah, ben là, avec le temps, ça va se calmer. Avec le temps, ça va partir. Voyons donc. Non, jamais. Et si vous réfléchissez dans votre vie, des choses qui ont été là, si vous n'en êtes pas débarrassé, ça revient. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça? Ça vous va? Il n'y a pas juste moi. Je veux vous partager un texte qui va être mon texte de base que Pasteur Francis a spoilé un peu la semaine dernière. Je lui en veux pas. Quoique ça fait 3 fois que je le dis, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. Tournez avec moi si vous avez votre application, si vous avez votre Bible papier dans Tite 2. OK, Tite 2, et on l'a à l'écran, je lis dans la version second 21, et le livre de Tite est tout de suite après Thessaloniciens et après Timothée. Et ça va vraiment parler de la grâce de Dieu. Alors, Tite 2, versets 11 à 15, va dire la chose suivante. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à un mode de vie impie, et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. encore là, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors l'apôtre Paul va dire à Tite, dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Et je mets cette dernière phrase-là juste pour qu'on puisse saisir l'importance que l'apôtre Paul voyait dans ce message de la grâce de Dieu-là pour qu'il ne soit pas négligé, mais pour qu'il soit partagé, enseigné et qu'il puisse être un encouragement. Alors qu'on va laisser le passage sur les écrans de côté, peut-être pas dans le centre, mais c'est comme si dans ce passage-là, on voit la grâce de Dieu à deux niveaux. On voit la grâce de Dieu qui est la source du salut. Cette source de salut extraordinaire pour tous les hommes. Et ce sera, d'ailleurs, le message de la semaine prochaine pour Pâques, ce sera la grâce extraordinaire de Dieu. Et à la croix, Jésus est mort à ma place. À la croix, Christ a choisi de mourir à ma place. Hein, on le voit dans le passage, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée, a été manifestée à la croix. C'est une action que Dieu fait. Il envoie son Fils prend nos péchés sur ses épaules, meurt sur la croix, ressuscite d'entre les morts et fait en sorte que chacun d'entre nous, on peut vivre avec cette conscience libérée, ce fardeau du péché qui est enlevé parce que nous sommes pleinement justifiés. Justifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la paix avec Dieu. Si demain matin je me fais rentrer dedans par un 10 roues, je sais que je suis en paix avec Dieu. Non parce que ma vie est parfaite, mais parce que Christ à la croix me justifie, prend sur lui mes péchés et m'accueille pour la vie éternelle. Amen. Source de salut, la grâce de Dieu est cette source de salut-là qui nous permet d'avoir cette assurance. Je suis justifié. Plus tard dans le verset, au verset 14, il va dire, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes. Ça, c'est l'action justement que devant Dieu, nous sommes en paix, nous sommes justifiés. Amen. Chacun qui place sa confiance en Jésus est justifié non par ses bonnes actions, mais est justifié par la croix de Jésus-Christ. Et ce qu'on voit, c'est que dans le même passage, cette grâce de Dieu-là est source de salut, mais elle est également la source de notre sanctification. À cause de la croix de Jésus, à cause que Jésus a porté ces péchés-là sur ses épaules, nous a pardonnés, nous a rendus libres, justifiés en paix avec lui, maintenant, moi, je fais la même chose. Je veux crucifier ma chair sur cette croix-là. Je veux renoncer à moi-même comme Christ a renoncé à lui-même. Je choisis de mourir à moi-même. Je choisis de mourir à mes désirs charnels. Je choisis de vivre selon la volonté de Dieu. À la croix, Jésus est mort à la croix pour moi. L'idée de la sanctification, c'est que cette grâce-là me pousse à moi-même à être crucifié avec Christ. À moi-même faire mourir mes désirs, mes péchés sur cette même croix-là. Je suis mort avec Christ. Et ceux qui meurent avec Christ ressusciteront aussi avec Christ. Hein? Vous savez ça. C'est pas une mort temporelle maintenant. C'est une mort à soi-même qui mène à une vie pour l'éternité. Et vous savez quoi? Faire ça, là, ça coûte des fois cher. Placer nos désirs charnels sur cette croix-là, puis de les laisser attacher à la croix, pas les remettre après. Hein? Des fois, ça coûte cher. Des fois, ça coûte cher. Et dans le passage au verset 14, ça veut dire que oui, Dieu nous a rachetés, ne nous racheter de toute faute, mais après ça, il va dire, il veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé. Purifié par de quoi? L'idée de se purifier, l'idée de la sanctification. Alors, la grâce de Dieu débute par une action, c'est-à-dire Jésus à la croix, source de salut révélée pour tous les hommes. Mais également, elle mène, cette grâce de Dieu-là à la croix mène à un processus de sanctification dans chacune de nos vies. Mène à un processus dynamique qui nous mène à ressembler à Jésus, qui nous mène à tasser des affaires qui n'ont pas d'allure, qui nous mènent à être sanctifiés. L'idée d'être sanctifié, c'est l'idée de marcher dans cette sanctification-là, de tasser les racines, de les arracher pour être de plus en plus comme Jésus. Parce que vous savez quoi? Il y a des choses dans nos vies qui nous font pas ressembler à Jésus. On appelle ça le péché. Et quand on considère que Jésus a été sans péché toute sa vie, on n'a pas le choix de comprendre que le péché dans nos vies ne nous fait pas ressembler davantage à Jésus. Il nous en éloigne de cette image-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si je reviens à Tite 2, on apprend que la grâce de Dieu, cette faveur non méritée, nous enseigne quoi? Nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. Nous invite à renoncer aux convoitises de ce monde. Elle nous enseigne ça. Mais elle nous enseigne aussi, pas juste quoi ne pas faire, mais elle nous enseigne aussi qu'est-ce qu'on devrait faire. Et qu'est-ce que la parole dit? Elle va dire la chose suivante. Elle va dire que elle nous enseigne à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Ça ressemble à un passage dans Michée, hein. Ce que l'Éternel demande de toi, Michée 6:8, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté. D'autres versions disent que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est la piété, marcher humblement avec Dieu. Ce processus de renoncer à un mode de vie qui a rien à voir avec la foi. Ce processus de renoncer aux convoitises de ce monde, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la sanctification. Et peut-être que il se pourrait que notre vision de la grâce soit parfois un peu tordue. Parce que peut-être que certaines personnes disent ici, ils m'entendent parler, ils disent « Mais moi, je pensais que la grâce de Dieu, ça faisait en sorte que je suis pardonné de tout. Tu sais, c'est gratuit, merci, bonsoir, c'est réglé. La grâce de Dieu, c'est ça. » J'aimerais te dire ce matin que la grâce de Dieu, elle est dynamique. C'est pas quelque chose... Juste une action, c'est un processus, c'est dynamique, ça nous enseigne, ça, on grandit. Et j'aimerais même vous dire que la grâce de Dieu n'est pas un tapis sur lequel on frotte nos bottes sales. Mais elle est une parole dynamique qui nous enseigne comment vivre. Je vais le répéter. La grâce de Dieu n'est pas un tapis sur lequel on fait juste essuyer quand on se sent mal, puis après ça, on fait comme si de rien n'était. Non, la grâce de Dieu nous enseigne même comment vivre. Et c'est des fois, on a l'impression que c'est statique. La grâce de Dieu, « Ah, j'ai péché, Seigneur, je demande pardon, bing, bang, c'est fini, let's go, on continue. » Est-ce que c'est ça la grâce de Dieu, véritablement? Ça, en fait, ça s'appelle la grâce cheap. C'est de la grâce bonbon. C'est de la grâce bon marché. C'est de la contrefaçon. Parce qu'au final, là, cette grâce de Dieu-là, le fait que Christ soit mort à la croix, il n'y a personne... On peut pas voir la gravité de la croix puis penser que c'est juste un tapis sur lequel on se lave les pieds. C'est trop gros, c'est trop grand. Puis ce matin, mon objectif, c'est de voir qu'est-ce que la grâce nous enseigne par rapport à nos vies. Et vous savez, l'idée de voir la grâce de Dieu comme étant juste un tapis qu'on se nettoie les pieds, c'est pas nouveau, hein. Même l'apôtre Paul va en parler à l'église qui est située à Rome. Parce qu'il va même devancer les questions. On ne sait pas si la question était venue à l'apôtre Paul ou il fait juste la soulever parce que finalement, c'est l'évidence que les gens se posent cette question-là. Mais dans Romains 6, si ça vous tente, si ça vous intéresse, lisez Romains 6 au complet, vous allez apprendre des choses extraordinaires. On va lire quelques passages qui vont être un peu comme un résumé, comme un condensé de l'argument de l'apôtre Paul. Mais vous allez voir, c'est intéressant les questions qu'il pose. Alors, il va dire, hey, que dirons-nous donc dans Romains 6:1? Est-ce qu'on va persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? En d'autres termes, si la grâce de Dieu est si extraordinaire que ça, pourquoi ne pas pécher plus souvent? Comme ça, la grâce de Dieu se révèle puis tout le monde est content. Si la grâce de Dieu, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Et là, l'apôtre Paul répond à ça assez vite. Il va dire, certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, crucifiés à la croix avec Christ, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? On continue un petit peu plus loin au verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Amen. Verset 10. Merci, c'est gentil. Yes, merci. Verset 10, Christ est mort. Et c'est pour le péché, c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Verset 22, qui est comme un peu la synthèse, conclusion. Il va dire, mais maintenant, vous avez été libérés du péché à cause de cette justification-là, à cause de l'œuvre de la croix, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Ça, c'est vraiment meilleur qu'être esclave du péché. Esclave de Dieu, ça, c'est la bonne position à avoir. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et là, il y a un passage qu'on cite souvent. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La grâce de Dieu n'est pas un tapis sur lequel on essuie nos pieds, mais c'est une parole, c'est quelque chose de dynamique dans nos vies qui nous permet d'avancer dans un processus ensemble. Comment la grâce de Dieu peut-elle m'enseigner comment vivre? Et j'aimerais vous soumettre la chose suivante. Est-ce que vous avez déjà réfléchi, puis là, vous allez peut-être, la fin de semaine prochaine, être capable de voir le film de Jésus, là, tu sais, maintenant, il passe entre 1h puis 3h du matin, là. J'exagère. Ben-Hur est à la même plage horaire, là, vous comprenez? Des fois, ils le mettent plus tôt, ça arrive. Mais tu sais, vous voyez ça, puis est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder ce film-là, ou de regarder un épisode de la crucifixion, puis de dire, « Mais, pourquoi est-ce qu'il avait besoin de le faire souffrir à ce point-là? » Pourquoi est-ce que ça avait besoin d'être si cruel? Pourquoi ça avait besoin d'être si laid? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oui, l'œuvre de la croix de la résurrection, c'est quelque chose de beau parce que ça nous donne la vie éternelle, mais quand on regarde ça, on fait comme « Ah, oh, ça a donc dû faire mal! » À toutes les fois que je pose mon abri tempo puis qu'il faut que je plante les piquettes qui sont longues même dans le sol, à toutes les fois, ça me fait mal parce que je me dis « Imagine ce que Jésus a ramassé dans ses poignets, là, tu sais. » Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi est-ce que Jésus était angoissé jusqu'à la mort dans le jardin de Gethsémané à quelques heures d'être crucifié? Il était angoissé de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette séparation du Père, il y avait le poids du péché qui s'en venait, il le savait. Pourquoi est-ce que ça a été si laid dans le sens de la souffrance? Ben, il y a un moment donné où est-ce qu'il faut qu'on fasse le lien que si le péché était banal, il n'y aurait pas eu besoin de souffrir comme ça. Mais la gravité de la souffrance nous montre la gravité du péché ou l'horreur du péché. Et d'ailleurs, ce péché-là de la crucifixion, de ces Romains et de toute la suite, fait juste montrer à quel point le péché, c'est pas quelque chose de banal, c'est grave. Est-ce que la grâce de Dieu banalise le péché? Ou bien est-ce qu'elle révèle sa gravité ou son côté plus... Ben en fait, la grâce de Dieu me rappelle que Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur. On l'a chanté tantôt, hein, l'amour extravagant de Dieu qui nous poursuit, cet amour-là qui est extraordinaire. Puis ensuite, on chante le chant qu'il est saint, sanctifié, complètement parfait et élevé au ciel. Jésus, Dieu déteste ce péché-là. Mais il aime le pécheur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu sur terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort à la croix. Alors la grâce de Dieu m'enseigne la gravité du péché, non de la banaliser. Et quand on fait de Dieu juste un tapis sur lequel s'essuyer les pieds, ben ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on banalise littéralement la chose. On fait comme si ça valait rien. Pas grave. Alors que c'est pas ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Cette grâce de Dieu-là nous enseigne que vivre un mode de vie dans la sainteté est un appel important. Et on va tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. J'ai fait exprès pour mal le dire, OK? Bravo Simon et Francis de ne pas vous être trompés plus souvent. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 4. Et ça veut dire, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. La sanctification, c'est un sujet important. Pas pour les autres, pour moi, pour vous. Vous savez, qu'est-ce qui se passe souvent quand on entend un message comme ça? On se dit, yes, enfin, le pasteur va parler. Fait que cette personne-là va comprendre. Vous y avez peut-être déjà pensé. Peut-être. Mais au final, il faut arrêter de voir la paille qui est dans l'œil de notre voisin puis regarder la poutre qui est dans la nôtre. Parce que devant le Seigneur, c'est pas genre on a la moyenne de péché du monde, alors est-ce que j'ai été au-delà de la moyenne ou pas devant le Seigneur? Si j'ai été un peu en haut de la moyenne, alors je suis correct. C'est pas une question d'écart type puis de moyenne, OK? Quand on va être devant le Seigneur, c'est one-on-one devant le Seigneur, puis ça va être ta vie devant le Seigneur. Ça sera pas la vie du groupe. Ça sera pas la moyenne du groupe. Ça va être toi devant le Seigneur. Il y a des fois où est-ce que, justement, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand on compare notre moralité aux autres, vous savez à qui on se compare? On se compare à des meurtriers déjà qui sont en prison. L'être humain est ainsi fait. On se compare à pire que nous pour pouvoir juste être « Ah, je suis pas si pire que ça ». Vous avez déjà fait ça? Non, jamais. Jamais, jamais. Il y a juste moi qui fais ça. Mais au final, notre sanctification, elle n'est pas en vue de regarder les autres à gauche et à droite. Elle est pour moi. C'est ma vie devant le Seigneur. C'est mon processus dynamique de la grâce de Dieu qui m'enseigne jour après jour. La grâce de Dieu, deuxièmement, on peut le voir, la grâce de Dieu m'enseigne que je peux être en sécurité parce que sa grâce me pardonne. Dans 1 Jean 1, 6 à 10, c'est un passage qui est si beau. « Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et c'est à cause de ça qu'on peut ne pas être dans la crainte de lutter contre le péché. C'est pas une question de « si je tombe une dernière fois, je suis cuit pour la vie ». Non, à cause de cette sécurité-là qu'il y a dans la grâce de Dieu, à savoir que, justement, il peut me pardonner et il désire le faire encore. À cause de ça, je peux être en sécurité, je peux lutter contre le péché sans avoir peur d'être abandonné. Sans avoir peur d'être abandonné. T'es comme Adam, hein, suite au premier péché, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Parfois, c'est ça qu'on fait. Plutôt que de retrouver la sécurité des bras de notre Père, on s'en va dans l'autre direction. La parole nous dit que si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. On peut travailler, on peut lutter sans avoir peur d'être abandonné. Amen. La grâce de Dieu m'enseigne aussi à me préparer à la bienheureuse espérance du retour de Jésus. Et on en a parlé la semaine dernière, et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez réécouter la prédication de la semaine dernière. Mais dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3, ça va dire la chose suivante. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, le retour de Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Amen. Il y a cette idée que parce que je sais que Jésus revient, je vais être pur devant lui. Et il y a parfois cette image-là du retour de Jésus qui est comme l'idée de la mariée qui retrouve le marié et qui se marie ensemble. Avez-vous déjà vu ça, vous, une mariée qui s'ajoute des taches de boîte sur sa robe blanche pour aller rencontrer son fiancé? Personne? Non, au contraire. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la mariée va se mettre belle pour ce moment où est-ce qu'elle va monter, où est-ce qu'elle va descendre l'allée pour se marier. Et c'est un peu le même concept ici. C'est cette idée-là que parce que Dieu est pur puis parce qu'on va le rencontrer, ben, on est en train de se préparer pour enlever une coupe de saleté sur notre robe, sur nos vêtements pour rencontrer Jésus, lui qui est pur. Est-ce qu'on va être parfait? Là-bas, oui. Maintenant, non. Le message de ce matin n'est pas « soyez complètement parfait de tout ». Parce que finalement, la grâce de Dieu nous enseigne à entrer dans ce processus-là pour être de plus en plus semblable à Jésus. Et la job finale, elle va se faire au retour de Jésus. Une fois qu'on va être là, on va être complètement purifié, ça va être extraordinaire. Des fois, on se dit, hey, on va-tu se ressembler quand on va être au ciel? On va-tu avoir notre face de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans ou de 60 ans? Il se pourrait que certaines personnes ne se reconnaissent pas parce qu'ils vont être lavés de certaines choses qui étaient dans leur vie qui n'étaient pas de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne se reconnaîtra pas, on ne saura pas c'est qui. Mais je devine que même dans nos réactions, peut-être qu'on ne se reconnaîtra pas nous-mêmes. C'est ce que j'essaie de dire. Parce qu'une fois qu'on va être avec lui, notre corps, ça va être un corps glorifié, qui n'aura pas d'imperfection, il n'y aura pas de deuil, ni de tristesse, ni de maladie, ni de quoi que ce soit qui a rapport au péché. On va être parfait avec lui. Fait que plutôt que pas vous reconnaître au ciel, pourquoi pas commencer le processus maintenant? Ça va? Comprenez ce que je veux dire? Mais il y a cette idée-là qu'il y a un événement clé qui est la croix de Jésus-Christ qui ouvre le salut à tous les hommes. Et à la fin, il y a le retour de Jésus qui finalement complète l'affaire. Et tous ceux qui auront cru en lui vont le rejoindre. Mais que dans le milieu de ces deux événements-là, il y a un chemin de sanctification que chacun en passe. Et c'est ça le processus dynamique. La grâce de Dieu m'enseigne à me préparer à cette bienheureuse espérance du retour de Jésus. Mais non seulement ça, la grâce de Dieu m'enseigne à tenir ferme dans les difficultés. Dans Romains 5, ça va dire la chose suivante. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, l'idée d'être justifié par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et là, l'apôtre Paul continue. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Cette grâce-là me donne la sécurité, me donne l'assurance que même dans mes détresses, ça sert à la gloire de Dieu. Cette grâce de Dieu-là, elle m'enseigne à vivre, non comme le monde enseigne de vivre, mais elle m'enseigne à vivre comme Dieu. Et même s'il y avait des détresses, mais cette détresse-là peut produire la persévérance, la victoire dans l'épreuve et toutes sortes de fruits extraordinaires qui font quoi? Qui nous sanctifient sur le chemin. Même nos détresses sont utilisées dans notre processus de sanctification. Finalement, cette grâce de Dieu-là m'enseigne à m'appuyer sur Dieu pour surmonter les convoitises de ce monde, les tentations. Des fois, je dis ça, je dis, je ne serais pas tenté si la tentation n'était pas si tentante. Je ne serais pas tenté si la tentation n'était pas si tentante. Alors, des fois, on a cette habitude-là, peut-être dans les milieux chrétiens, de dire « Le péché, c'est dégueulasse! Le péché, c'est dégueulasse! » Mais s'il était si dégueulasse que ça, personne ne le ferait. Vous comprenez? C'est comme, des fois, je qualifie le péché comme une glosette au raisin, mais le raisin est vraiment pas bon. Tu sais, un raisin pourri. Fait que tu te mets ça dans la bouche, une glosette au raisin, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est comme un raisin sec enrobé de chocolat au lait. Au final, le péché, c'est toujours la même chose. Tu te le mets dans la bouche, ça goûte bon, jusqu'à ce que tu croques dans le raisin moisi dégueulasse dans le milieu. Et qu'est-ce qui se passe après? Quel arrière-goût t'as? La beauté somptueuse du chocolat moelleux dans ta bouche? Non, tout ce que t'as dans la bouche, là, c'est l'espèce de goût amer dégueulasse du raisin. Là, je parle pas d'un raisin sec normal, j'aime les raisins secs. Je parle d'un raisin sec genre passé date. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec les ados, j'utilisais un autre terme que je vous dirai pas, OK? Mais tout ça pour dire que le péché, c'est comme ça. Si c'était pas si tentant, personne le ferait. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, on a l'impression d'être au-dessus de nos affaires, nous autres. Hein, nous autres, les chrétiens, on l'a l'affaire. Je vais le combattre tout seul, ce péché-là. Dieu, il va voir comment je suis bon. Vous avez déjà fait ça? Quelle est la finale de tout ça? On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de combattre avec Dieu. On a besoin que Dieu soit avec nous parce que si on fait juste le faire par nos propres forces, c'est comme si on essayait d'éteindre un feu avec une allumette. Vous pouvez essayer, ça marchera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il y a ce passage-là que cette grâce de Dieu-là m'enseigne à m'appuyer sur Dieu pour surmonter ses tentations, ses convoitises. Et ne nous leurrons pas, c'est pas parce que c'est juste dégueulasse. Des fois, la tentation est tentante. C'est pour ça qu'on y tombe. S'il était vraiment juste dégueulasse, personne ne tomberait dans le panneau. Mais on a besoin de Dieu. Et ça veut dire que, en effet, au verset 15 et 16 du chapitre 4 d'Hébreux, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre ici » et parler de Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Souvent dans ma vie, tu sais, quand il y a des circonstances que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, j'ai l'habitude de prier, Seigneur, je viens au trône de ta grâce pour être secouru, puis je te prie que tu puisses le faire au moment opportun. Et je pense que c'est une excellente prière, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais en fait, le contexte du passage nous parle de nos faiblesses et de nos tentations. Et je pense que ce passage-là s'applique beaucoup plus à ces moments où est-ce qu'on est dans une situation, où est-ce qu'on est tenté, où est-ce qu'il y a la convoitise qui est là, pour se rappeler qu'on a au ciel un Dieu qui a été tenté lui aussi. Hein, qui a été même tenté après son baptême d'eau, dans le désert. Il a été tenté pour vrai, mais il l'a surmonté sans péché. Et finalement, c'est à lui, c'est avec lui que nous pouvons surmonter tout ça, au trône de la grâce. Et frères et sœurs, s'il vous plaît, reconnaissons qu'on est plus faible qu'on peut l'imaginer. Nous sommes faibles. On a besoin de Dieu pour surmonter le péché. On a besoin de la compassion et du secours qui est disponible. Il y a un prédicateur qui parlait du péché, il disait, « S'il y a des coquerelles dans votre maison, est-ce que vous attendez qu'ils partent par eux-mêmes? » Non! Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez essayer de les tuer une après l'autre avec un couteau à steak? Qu'est-ce que vous allez faire? Exterminateur, peux-tu venir right now? Vous comprenez? Vous allez demander quelqu'un qui va venir vous aider. Vous ne vous fierez pas à votre expertise personnelle pour essayer de tuer toutes les coquerelles? Ouais, je suis le seul cave ici, là? Non, vous allez faire ça? Ben des fois, avec le péché, c'est ça qu'on fait. On pense qu'ils vont partir par elles-mêmes. Ah, je vais leur faire une flèche par là-bas chez mon voisin. Eh non, ça marchera pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui est avec nous pour traiter ça. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est notre grand prêtre qui est là dans le ciel. Alors, la question ce matin, c'est où en sommes-nous dans notre sanctification, dans ce processus-là dynamique, dans cette grâce dynamique de Dieu qui fait pas juste nous essuyer les pieds, qui purifie nos cœurs, mais nous enseigne à vivre selon un mode de vie qui est conforme à la volonté de Dieu? Quel est l'état des racines d'amertume? Quel est l'état des racines de péché dans ta vie? Quel est l'état des racines, des choses, des trucs qu'on n'est pas fiers? Parfois, il y a des gens qui pensent que la grâce de Dieu, c'est comme une Tylenol qu'on sort de notre armoire à pharmacie. On a mal à la tête, on prend la pilule, puis on dit « Ah, ben ça va ». Mais au final, le problème, c'est qu'il se pourrait que le mal de tête ne soit pas uniquement causé par le manque de Tylenol. Ça se peut qu'il y ait quelque chose dans le plus profond de ton être, dans ton corps, qui produit ce mal de tête-là. Et en fait, la réalité, c'est que le Tylenol s'attaque à quoi? Il s'attaque aux symptômes, mais il ne s'attaque pas à la cause. La cause du mal de tête peut être toutes sortes de choses, et je ne commencerai pas à nommer des affaires. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent mener à un mal de tête. Mais vous comprenez que la grâce de Dieu n'est pas juste un symptôme, l'idée de régler les symptômes de ma conscience qui est peut-être brisée ou qui est peut-être qui se sent coupable, mais on a besoin d'aller à la racine. Puis d'arracher ça. Je reviens à mon histoire de haie envahissante. On avait su dans notre voisinage que cette haie-là avait eu plusieurs plaintes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était envahissante. Et on était vraiment motivés à l'enlever. Puis comme je vous ai dit, on n'a pas lésiné. Et là, quand on est arrivé, moi, Cindy, avec tout le mindset du guerrier, on a commencé à creuser, puis on s'est rendu compte que notre haie, tu sais, les branches étaient ça de grosses, mais les racines, c'était des racines d'arbres. Ça n'avait pas de maudit bon sens. On a essayé de pelleter, on a essayé de creuser. Honnêtement, là, la seule chose qui était endommagée, c'est notre dos. Il n'y a rien d'autre. La haie, nickel. Pas de souci. Les racines étaient tellement grosses, ça avait pas de bon sens. Et puis là, on a décidé de faire ce qu'on pouvait. C'est comme, tu sais, la haie, moi contre la haie. Je sais pas s'il y a des gars qui sont comme ça. C'est comme ça en vient une compétition personnelle. C'est comme, qui va gagner? Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis, si je suis pas capable d'enlever tes racines, crois-moi, tu seras pas haut sur terre. Fait qu'on a rasé ça le plus bas possible en se disant, si je suis pas capable d'enlever racines, il va mourir de sa belle mort. Vous mettez le qualificatif après que vous voulez, OK? Alors, on fait ça à l'automne. On avait acheté la maison en août. Alors, on fait la job. Et là, au printemps, ça se met à pousser. Ça avait aucun bon sens. On aurait dit du bambou. Tu sais, vous savez que le bambou, il pousse d'une façon exponentielle. J'avais l'impression, je me dis, coudonc, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette haie-là? Bref, haie 1, Jean-Fred 0. C'est elle qui a gagné. Et puis, on peut même la voir. Je vous ai mis des photos, là. Et elle gagne encore! Elle gagne encore. Hey, ça, là, cette haie-là est plus haute que moi de beaucoup, là. Même les bras d'un zère, c'est plus que 8 pieds d'eau. Puis honnêtement, si je la taille pas, ça devient... Et ça, vous comprenez pourquoi que la ville pourrait ne pas l'aimer, là? Parce qu'elle est collée sur la rue. En tout cas, ne le dites pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Le but, c'est pas de me parler de ma haie. D'autres choses à parler de plus importantes que ça. La chose que j'aimerais vous dire, c'est que on peut essayer de limiter la croissance du péché. On peut prendre le taille-haie puis dire, hey, je vais essayer de détruire ça, ce péché-là. Je vais essayer de la rendre au minimum. Mais le problème, c'est que si on fait juste passer au taille-haie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dicton au Québec qui va dire, chasser le naturel, il revient au galop. Bon, ceux qui l'ont pas compris, ça fait juste dire, essaye de faire juste mettre de côté ce péché-là, puis crois-moi, l'élastique va te voler dans la face. T'as une autre expression, ça. En tout cas, tu sais, quand t'expliques une expression par une autre expression que personne comprend, c'est parfait. Ce que je veux dire, c'est que ce processus de sanctification-là, il est important. Il est important dans chacune de nos vies. Puis là, je sais qu'il y en a ici, ils font comme, « Ah, oh, je suis pas à l'aise! Ah. » C'est normal. Ce n'est pas une accusation, on est tous dans ce même processus-là, jusqu'à temps qu'on soit rendu au retour de Jésus. C'est une marche. Devenir comme Jésus, ça ne se fait pas un claquement de doigts. Si vous avez déjà essayé, vous avez compris que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on te plonge dans le baptistère qu'après ça, tu es parfaitement comme Jésus, tu aurais pu tourner la série de Chosen. Vous comprenez? Il y a de quoi de plus que ça. Il y a de quoi de plus que ça. La réalité, c'est que si on s'attaque juste à ce qui dépasse le sol, à ce que les autres voient, ben les racines, elles grandissent. Puis, savez-vous quoi? Il y a peut-être des gens ici, là, vous aimez Jésus, là, vraiment beaucoup, là. Puis, c'est pas votre volonté d'aimer Jésus qui est pas là, mais il se pourrait qu'il y ait des racines tellement pognées dans votre cœur qu'il n'y a plus de place pour Jésus. Puis ça vous ramène en bas, ça vous tire vers le bas. Comme si tu avais un poids énorme qui te ramène dans le bas du fleuve alors que tu essayes de nager pour juste prendre ton air. La vérité, c'est que parfois, ces racines-là sont tellement pognées, puis on a essayé de les tailler, on a essayé de faire en sorte que ça ne paraisse pas trop. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de les arracher. Et c'est ça le processus de sanctification. Le processus de sanctification, c'est pas un processus d'image publique pour que les autres ne voient pas. Le processus de sanctification, c'est d'aller à la racine et de travailler avec Dieu pour arracher ça. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de cette grâce abondante-là. C'est pour ça qu'on a besoin de cet amour qui vient, cet amour extravagant, sans limite de Dieu. Parce que vous savez quoi? De la même façon que Christ crucifié à la croix, ça n'a pas été facile pour lui. Bien, sachez que crucifier notre chair sur cette même croix, être crucifié avec Christ, bien, ça coûte. Ça coûte aussi. Mais on va avoir les yeux fixés sur celui qui est saint et élevé, sur celui qui est la source de notre sanctification. Si je reprends mon verset de base dans Hébreux 12, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. J'aimerais vous suggérer ce matin que la grâce de Dieu, elle est agissante, elle est dynamique, elle nous amène dans un processus, elle nous enseigne, elle nous permet d'être semblables à Jésus, elle nous encourage à se débarrasser du péché, elle nous relève cette grâce-là, elle nous pardonne, elle nous permet de ne pas banaliser le péché. Elle nous offre tellement plus que ce que nous méritons. Cette grâce-là de Dieu-là est extraordinaire. Cette grâce de Dieu-là est extraordinaire. Elle est le résultat du cœur d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon message ce matin est le suivant. Lâchez pas. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de devenir comme Jésus. Ça vaut la peine de courir la course sans avoir des fardeaux sur nos épaules qui nous minent jour après jour. Ça vaut la peine d'avoir un cœur qui se sanctifie de plus en plus en Jésus. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre ces racines d'amertume-là puis de les garrocher dans le feu. Mon histoire de haie, si je veux m'en débarrasser, vous savez ce que je vais devoir faire? Je vais devoir louer une petite pelle mécanique ou demander à quelqu'un de le faire parce que moi, je suis pas très bébelle de pelle mécanique. Je pense que je suis très mauvais là-dedans. Mais c'est d'arracher, c'est d'aller creuser puis dire, je l'arrache complètement. Je sais qu'elle repoussera pas, non parce que j'ai un espoir que ça va finir par le temps, mais parce que je sais que si j'enlève les racines, j'enlève aussi la haie. Et je veux vous dire de pas lâcher. Des fois, on vit dans un monde où est-ce que tout nous amène à vouloir se relâcher puis faire comme si c'était pas grave, puis ci, puis ça. J'aimerais vous dire, la sanctification est aussi votre témoignage pour les gens autour de vous. La sanctification est votre témoignage pour ceux qui vous voient. Ceux qui voient comment vous réagissez. Ceux qui voient comment vous êtes. Ça vaut la peine de cheminer avec Dieu dans notre sanctification. Titre 2, on va revenir à ce verset-là que j'ai cité au début. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Vous savez, pasteur Francis a parlé la semaine dernière que dans le retour de Jésus, nous sommes dans une attente. Et il a mentionné qu'on n'était pas dans une attente passive, mais nous étions dans une attente active. Ben, en fait, c'est exactement ça. La sanctification, c'est exactement ça. C'est l'idée de nous attendons avec patience la venue de notre Sauveur Jésus, tout en étant en action dans ce processus de sanctification-là. Et le texte dans le titre va parler de belles œuvres, l'idée d'être des témoins là où nous sommes. Alors ce matin, je ne sais pas où en est l'état de ton taille-haie. Je ne sais pas où en est l'état des racines. Mais une chose est certaine, c'est que chacun d'entre nous, on a besoin de Dieu. On ne peut pas faire ça tout seul. Mais Dieu ne peut pas le faire sans qu'on y soit engagé avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne le fait pas par magie comme dans le temps. Il veut travailler avec nous. Pourquoi? Pour que ces racines-là puissent non pas juste être contrôlées, mais puissent être détruites. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Il y a pas mal de stock dans ce message-là, j'en conviens. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin justement de dire, « Hey, ouais, là, je veux, ouais, là, c'est le temps que ça débarrasse, ça, cette racine-là. » Puis si c'est vous, je ne vous ferai pas lever votre main puis je ne vous ferai pas venir en avant, OK? C'est en vous et le Seigneur, ça va. Mais j'aimerais vous mentionner que Dieu ne le fera pas sans votre accord. Dieu ne le fera pas comme par magie. Il veut travailler avec vous, il veut collaborer avec vous. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de dire, « Hey, moi, je veux vivre ma vie avec sagesse, avec justice, conformément à la volonté de Dieu. » Et si c'est ça votre désir, vous pouvez prier dans ce sens-là. Et j'aimerais ce matin prier pour chacun d'entre vous, et moi inclus. Parce que vous savez, j'ai beau être pasteur, je ne suis pas parfait moi non plus. Je suis en route, je suis sur ce même chemin-là. Et moi, croyez-moi, je ne veux pas faire de la grâce de Dieu un marchepied ou juste un tapis sur lequel je fais comme, c'est pas grave. Je veux marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux marcher là-dedans. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, merci pour ton peuple rassemblé dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que ta grâce, Seigneur Jésus, est extraordinaire. Ta grâce, Seigneur, elle nous enseigne tellement de choses. Et Jésus, je veux te prier ce matin pour des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui décident de collaborer avec toi, avec leur grand prêtre qui est rempli de compassion et de miséricorde pour éliminer ces choses qui ont besoin d'être éliminées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de puiser en toi notre sécurité de pouvoir lutter, de pouvoir crucifier notre chair sur cette même croix sur laquelle toi, tu as été crucifié. Seigneur, aide-nous à renoncer aux choses que nous avons besoin de renoncer. Et Seigneur, je veux te prier pour ta grâce abondante sur chacun d'entre nous. Cette grâce qui vient de toi, Seigneur. Cette grâce qui nous amène à bouger, qui nous amène à être émerveillés. À quel point est-ce que tu peux même nous accorder des choses que nous ne méritons pas? Alors Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cette personne, Seigneur, que ça fait peut-être 35 152 fois qu'il te demande pardon. Et qu'aujourd'hui, il a l'impression qu'il est abandonné. Il a l'impression que la grâce de Dieu a touché sa fin. Et Seigneur, je veux te prier que tu l'encourages, Seigneur, que cette grâce de Dieu-là, elle est toujours oui et amen. Elle est toujours un processus, non pas statique, non pas d'un nombre de fois, mais est un processus dynamique qui change le cœur, qui change la vie, qui change les habitudes, qui détruit les racines. Seigneur éternel, je te prie que ce matin, il y ait des hommes et des femmes qui puissent avoir cette assurance-là qu'ils ne seront pas abandonnés, mais au contraire, qu'ils vont être aimés, qu'ils vont être pris dans les bras de notre Papa d'amour dans le ciel. Alors, Seigneur éternel, je te prie ce matin que tu puisses bénir chacun et que chacun d'entre nous puissions vivre avec cette sagesse, avec cette justice, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.